pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
40 ans après la mort mystérieuse de son père, Hossein Benedjahi, assassiné le 12 décembre 1975 à Bousfer en Algérie, Adila Benedjahizou, sa fille, décide de retourner dans son pays natal mener l'enquête. Plusieurs semaines se sont passées. Au lieu de progresser dans ses recherches et d'y voir plus clair, le mystère ne fait que s'épaissir. Les hypothèses les plus contradictoires et parfois les plus farfelues s'accumulent dans le brouillard. Chacun détient une vérité définitive sur la mort de Hossein, dont la personnalité fluctue au fil des rencontres. Les indices se dérobent, la ferme où il est mort n'est pas accessible. Bientôt, Adila devra rentrer en France. En mettant enfin la main sur un témoin clé, parviendra-t-elle à revoir toute son enquête sous un autre angle ? Tout de suite, Mes années boum, une enquête algérienne. C'est la saison 1 et l'épisode 6, intitulé « Tout le monde ment », où on découvre que Hossein Benedjahi s'est suicidé. Une série d'Adila Benedjahizou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai passé 8 mois avec lui. Ouais. 8 mois, c'est tout.
Ah, seulement 8 mois?
Seulement 8 mois.
Mais tu t'es jamais posé la question, quand il est mort, est-ce qu'il a été assassiné?
On s'est posé des problèmes entre nous.
Ouais.
Mais on est parti sur la même voie, qu'il n'était pas assassiné.
Mais comment vous avez pu partir sur cette voie-là, alors que du côté de ma famille, on dit tous qu'il a été assassiné?
Abdullah!
Il a été assassiné, normalement empoisonné.
Mais puisque je te dis qu'il y a des traces de strangulation, l'autopsie, ils ont dit qu'il y avait des traces de fil de fer autour de son cou.
Je ne sais pas. L'autopsie, ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Et ils n'ont pas dit que c'était une mort naturelle, puisqu'il y a eu une enquête.
L'enquête militaire, ce n'est pas une enquête.
Ça faisait déjà un bon mois où tu n'arrêtais pas de dire « Maman, papa est mort. Maman, papa est mort. »
C'était l'année de... L'Aïd el-Kébir, c'était l'Aïd du sacrifice.
Comme quoi, en fait, la sensation de mort rôdait autour de nous.
Il a été assassiné chez lui.
Les responsables, c'était des militaires, c'était pas des civils. Et s'il n'avait pas de problème avec personne.
Sauf qu'on n'a jamais su la vérité. Même celle-là.
Moi, en tant que Benedjahi, je peux te dire que ça a fait un gros boom dans la famille.
L'armée fait partie de la nation, fait partie du peuple.
Personne ne sait. Personne ne peut savoir ce qui s'est réellement passé.
Ça s'est passé comment, vous vous souvenez?
C'est tellement loin. Tellement loin. Plus de 40 ans. Hein.
Et Dieu seul le sait.
Ouais, Dieu seul le sait. Dieu et l'assassin.
Et l'assassin, voilà.
Depuis que j'ai rencontré la Kral Bengoua, qui était comptable dans la ferme où travaillait mon père, toutes mes certitudes se sont effondrées. Selon lui, mon père n'a pas été assassiné. Je ne connais pas cet homme, et je m'en méfie. Après tout, il faisait partie de l'entourage de mon père, ce même entourage qu'on soupçonne d'être responsable de sa mort. Mais je suis ébranlée. Car je dois aussi reconnaître que pour ma famille, c'est certainement plus commode de croire à un meurtre perpétré par des militaires qu'à un suicide ou à une mort crapuleuse. Et il y a une chose que je sais depuis le début, mais que je ne vous ai pas dite. Tout le monde ment. Les gens mentent pour des raisons différentes, pour enjoliver le souvenir de mon père, pour se donner le beau rôle. Parfois même, certains me racontent en toute sincérité des choses absolument impossibles. Même moi, je viens de vous avouer que je vous avais menti par omission. Si on ment, c'est pour une très bonne raison. On sait tous, plus ou moins consciemment, que le récit est plus important que la vérité. Mais en l'occurrence, le récit que je suis venue chercher en Algérie ne peut pas se priver de vérité sur le point suivant. Est-ce que mon père a vraiment été assassiné? Car si ce n'est pas le cas, il faut que j'envisage l'hypothèse d'un suicide. et tout repose sur un détail très précis. Le corps de mon père portait des traces de strangulation. Ces traces, tout le monde m'en parle. Mais qui les a vraiment vues?
Donc Judy, il n'a jamais vu le corps.
Il n'a pas vu. Il l'a pas vu. Il me semble qu'il ne l'a pas vu du tout.
Je suis obligée de me replonger dans mes archives.
À Batna, je sais que personne ne l'a vu parce que c'est les militaires qui l'ont ramené et il était dans un cercueil. Et comme il était scellé, donc il était interdit de l'ouvrir. On l'a juste déposé à la maison. Il était couvert d'un drapeau d'Algérie, déposé par les militaires. Ils l'ont laissé un petit moment et puis ils l'ont récupéré et c'était directement vers le cimetière. Il y avait un petit rapport d'autopsie ou quelque chose comme ça.
Ah, les militaires, ils ont rapporté le rapport d'autopsie avec le corps ?
Avec le corps, oui. Je crois que c'était ça. Mais d'après le rapport d'autopsie, il paraît qu'il a été mort étranglé.
D'accord. Et vous l'avez pas gardé ?
Non, non.
D'accord.
Ça, on l'a pas gardé.
C'est bizarre quand même de ramener le corps avec un rapport d'autopsie qui dit qu'il a été étranglé, de donner ça à la famille.
Je sais pas comment c'était. Mais je sais que, voilà, ils l'ont lu. Où est-ce qu'ils l'ont lu, ce rapport, j'ignore.
Et ça a été, mais il a souffert, hein. on l'a torturé. Hein.
Torturé, je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à retrouver de témoins qui étaient là au moment où il a été découvert.
Mais bien sûr. Ah si, tu as ton grand-père et moi.
Je ne sais pas exactement ce qu'il a vu.
Il a vu, qui a vu la bière ouverte. C'est Jamel Benjaï.
Ah bon?
Oui.
Mais il était là?
Jamel Benjaï a insisté pour que les gendarmes ouvrent la bière comme il était. Ou pour lire le rapport de. Le rapport d'autopsie.
Il a eu accès au rapport d'autopsie?
Je pense qu'il a eu accès au rapport d'autopsie. D'accord. Ce que je peux te dire, seul Jamel peut le confirmer, c'est qu'il avait les mains liées avec du fil de fer. Et qu'il avait été étranglé, je crois, il m'a dit, avec du fil de fer. Et c'était un truc top secret. Je ne sais pas s'il va te le dire, mais en tout cas, moi, il me l'a dit. Il me l'a dit, laisse-le venir.
Plusieurs personnes me parlent du cousin de Jamel, qui, en tant que médecin, a eu accès au rapport d'autopsie. Je prends contact avec lui. Je suis d'autant plus curieuse de rencontrer le cousin de Jamel que je connais une partie de son histoire. Et vous aussi d'ailleurs. Je vous laisse faire appel à vos souvenirs pour le resituer.
Ton père a été ramené, son cercueil a été ramené par une patrouille militaire.
En tous les cas, quand je le rencontre, je suis sûre qu'il va effacer tous mes doutes.
Il y avait un sergent et quatre soldats qui avaient ramené le cercueil. Ils l'ont déposé à la maison de la Rigoresse. Et puis ils sont partis faire les papiers pour s'occuper des papiers pour l'enterrement. Et à l'état civil, il y avait un cousin qui travaillait là-bas, Rachid Arabo. Le gars qui a ramené le chef de patrouille lui a dit c'est une mort louche. Il y a quelque chose, ce n'est pas une mort naturelle, c'est une mort louche. Voilà. Et là, on est parti voir le médecin qui était là-bas, c'est quelqu'un de ma promotion, qui est parti regarder le dossier. Il m'a dit effectivement, ce qu'il vous a dit, c'est juste c'était une mort par pendaison des ans. Voilà. Et c'est, on l'a dit à ton grand-père. Voilà.
Mais.
Ça n'a pas d'autres renseignements de plus.
Et donc, lui, vous a juste dit pendaison.
Ouais.
Et comment ça se fait que, du coup, après, dans ma famille, tout le monde dit il a été assassiné?
Eh bien, c'est pas normal de moi de mourir de pendaison. Est-ce que c'est normal?
Mais une pendaison, ça peut être un suicide.
Mais je ne sais pas, je dis moi c'est que ce que j'avais retenu à l'époque, voilà.
D'accord. Mais donc, vous, qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Vous êtes dit c'est suicidé? Vous êtes dit il a été tué?
Je n'ai pas pensé au suicide, moi je pensais qu'on l'avait tué, voilà.
Mais pourquoi vous avez pensé
ça? Je ne sais pas. Mais c'était l'ambiance générale, sur le monde. C'est pas normal que quelqu'un meure à 27 ans comme ça. Voilà. Puis, aussi, il n'était pas du truc, il n'avait pas de problème pour se suicider, elle.
Ouais. Mais par exemple, Nabil Megdad, il dit.
Il n'était pas maintenant.
Non, mais je sais bien. Il dit qu'il avait des traces de fil de fer. C'était un étranglement avec des traces de fil de fer. Il a été frappé, il a souffert avant de mourir.
Ce que tu dis dans Nabil Megdad, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tiré. Hein.
Bah lui, il dit que c'est.
Comment c'est-il? C'est ça.
Bah lui, il dit c'est Jamel qui a lu le rapport d'autopsie.
Non. Moi, j'ai jamais dit qu'il y avait de barres de fer. Tu sais que moi, j'ai des trucs de fer. Je ne sais pas qu'il est de.
Non, j'ai pas parlé de barres de fer.
De ses vices, j'ai pas dit ça, moi. Voilà.
Ouais.
Mais j'ai pas parlé de torture, moi. Ça n'est jamais parlé. C'est pas dans tout cas. Je... La trace ici, qu'est-ce que ce soit une pendaison ou que ce soit un étranglement, elle y est.
La
différence, elle est derrière.
Ouais, la différence, elle est
derrière. Quand c'est une strangulation, elle est comme ça. Quand ce n'est pas une strangulation, quand c'est une pendaison, elle est comme ça. Ouais. C'est le tour qui, fait, qui permet de faire la différence entre une strangulation et une pendaison.
Ouais.
C'est facile pour un juste de se gourba, hein. C'est facile à faire la différence. Sur le plan autopsie, c'est facile.
Bon, ben, je ne sais pas.
Moi, tu sais, les gens déforment, les gens battent, les gens prennent leur désir pour de la réalité, chacun est avec. Moi, je te dis ce que j'ai vu objectivement. Qui c'est qui a dit et qui c'est qui a confirmé.
Et voilà. À chaque fois que je crois avoir une réponse, je me retrouve devant une nouvelle série de questions. J'ai l'impression d'être enfermé dans une arborescence diabolique. Et quand je me sens perdu, je n'ai qu'une seule envie, appeler ma maman. Car ma mère, elle l'a lu ce rapport d'autopsie.
J'ai pris une feuille qui était en fait le compte-rendu des médecins et où détaillé qu'il avait reçu des coups, qu'il y avait une trace d'étranglement et c'est ça qui l'avait tué. Et il y avait... ils étaient combien? Je crois qu'ils étaient 6 médecins légistes parce qu'ils ont passé le corps de médecin en médecin. Transculture, les pieds sur terre.
Même en imaginant que ma mère était en état de choc, elle n'a quand même pas pu inventer des détails pareils. Forte de son témoignage, je choisis de rester sur la thèse de l'assassinat.
Toujours souriant.
Malheureusement, Lakhral Bengoua m'a dit une autre chose qui m'ébranle.
Et comment ça se fait qu'il vous avait recruté? Vous vous connaissiez avant?
On se connaissait.
À Mossa?
À Mossa, quand même.
Qu'est-ce que vous faisiez à Mossa?
Je fréquentais les bars. À l'époque, quand tu es petit, des voyous. Maintenant, ça y est. On a déposé les armes. Ah, il avait un problème de boisson. Il buvait Clion.
Clion.
Ça veut dire quoi, Clion?
C'est l'automne.
Tous les jours.
Après, on était que.
Et où est-ce que vous alliez boire à l'époque?
On buvait ici à Bousserplage.
Ah, il y avait une buvette à Bousserplage.
Il y avait Bousserplage de A à Z, des buvettes, des dépositaires.
Au fil de mes rencontres, j'ai entendu plusieurs fois que mon père buvait. Mais je n'y ai pas fait attention. En partie parce que je n'en avais pas envie. En partie parce que je n'imaginais pas qu'on puisse être alcoolique dans une société où l'alcool est interdit.
Alors je vais te dire ce que disent de lui ses collègues de promo. Ils disaient qu'il était sérieux, travailleur et compétent. C'est vrai, il était sérieux. Et par rapport aux Benjaï, qui sont une famille assez... beaucoup de garçons, donc beaucoup de concurrence, de virilité. Il était le sage de la famille, parce que les autres, il faut dire... pendant l'adolescence, ils étaient un petit peu excessifs. Hein.
J'essaye d'éclaircir la question auprès de Nabil Megdad, un ami d'enfance de mon père qui ne vit plus à Batna et qui parle plus librement que les autres.
Mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils buvaient beaucoup. Donc le soir, ils pouvaient boire pas mal avant d'aller se coucher.
Ils devaient peut-être boire plus que d'habitude parce qu'il était seul. Écoute, quand tu rentres seul dans une maison, tout seul, froide, au milieu de la campagne, c'était pas la campagne de maintenant, c'était vraiment la campagne, tout seul, et il faut qu'il rentre, qu'il dorme. J'ai vu un gars très haut placé à la société de Sonatrach. Un jour, je lui dis, écoute, j'ai été à une basse vie, je le trouve tout seul en train de boire, et je lui ai dit, écoute, tu exagères tous les jours, on me dit que tu rentres sous tous les jours. Il m'a dit, dîne avec moi, j'ai dîné avec lui. Après, il m'a dit, accompagne-moi à la maison. Je l'ai accompagné, il m'a ouvert la maison, il m'a dit, regarde, rentre. C'était un chalet, toutes les vitres fermées, tout le truc noir, sombre et froid. Et il m'a dit, regarde, si je viens pas sous ici, je ne dors pas. Boire et après, mais tout le monde buvait à l'époque. Tout le monde buvait, il se faisait des concours à celui qui buvait le plus. Et après, il y avait un jour, ton grand-père, Ami Abdallah, et je l'ai vu, Ami Abdallah, le matin de bonne heure avec sa canne et son burnous et son turban, aller vers le commissariat. Et quand il revient, Ami Abdallah, qu'est-ce qui s'est passé? Quel homme, j'en ai marre. Tous les jours, il faut que j'aille en chercher un au commissariat. Tous les jours, ils viennent tous sous, l'un après l'autre, et toujours le dernier, c'est Majid. Après, il passe la nuit à vomir ou à tabasser sa femme. Et j'en ai marre de cette racaille. C'est ce qu'il y avait. Et un jour, il leur raconte, et il leur a raconté que Khalifa, il rentre sous, complètement sous, et il y avait tes grands-parents. Ami Abdallah et sa femme, autour d'une maïda, une petite table basse, ils dînaient. Et Khalifa qui rentre sous complètement, et il rentre dans la petite table, la maïda, il renverse tout, il ne s'en rend même pas compte, il rentre, tu avais à côté, il y avait une grande cuisine, attenante, il rentre et il se met à uriner.
Dans la cuisine.
Complètement bourré. Il en a souffert. Mais lui, il était comme ça. Hein. Il picolait pas mal quand il était jeune.
Ah bon? Mon grand-père, je dis.
Et qu'est-ce que tu crois? Les Benjaïs, c'est une tradition chez eux.
Cette génération-là aussi, il picolait.
Mais bien sûr. Mais bien entendu. Bien entendu.
Ça, parce qu'à la ferme, j'imagine qu'il n'y avait pas d'alcool.
Tu crois? Mais ce n'est pas une question de ferme. Mais justement, tu as bien vu que c'était des gens aisés. Et qu'est-ce que tu crois qu'ils allaient à la ferme? Ils allaient au bar et quand tu parles. Et des deux côtés. Hein. Après, ils sont devenus d'une piété exemplaire. D'ailleurs, dans le Coran, ils te disent les meilleurs croyants sont ceux qui te webin, c'est-à-dire ceux qui arrivent à la rédemption, qui arrêtent et qui se...
Ceux qui ont péché avant.
Ceux qui ont péché avant. Ouais, donc c'était de bons pêcheurs, donc de bons musulmans après.
Le mythe s'effondre. Non seulement mon père était un buveur invétéré, mais mon grand-père aussi. J'étais persuadée d'avoir hérité de la pureté du sang berbère et je me retrouve avec l'hérédité alcoolique d'une fille de pêcheur breton. Ça m'apprendra à vouloir savoir d'où je viens. En même temps, avoir un père alcoolique, c'est pas marrant, mais c'est quand même mieux qu'avoir un père suicidé. J'en suis là de mes réflexions existentielles quand Dahan accepte enfin de me rencontrer.
Allô Dahan, c'est Adila, je viens d'arriver à la station des taxis.
Souvenez-vous,
Dahan,
c'est le fameux collègue de mon père qui a été suspecté par la police et que je n'arrivais pas à voir.
D'accord, mais où exactement?
Dahan est un insaisissable.
À l'écran de la station.
Quand je veux le voir à Tiaret, il est à Sidi Bel Abbès. Quand je lui propose de passer à Sidi Bel Abbès, il part pour Alger. Et quand je lui dis que je suis à Alger, il n'y est plus.
Oui, mais il y en a un côté bus et il y en a un à l'autre bout du parking. Moi, maintenant, je suis à l'autre bout du parking.
Après 17 coups de fil, 5 rendez-vous manqués et plusieurs personnes qui ont intercédé en ma faveur, Dahan accepte de me recevoir.
Je suis de l'autre côté, donc je reviens.
Je vais enfin savoir pourquoi il a été suspecté.
Je suis de l'autre côté, je reviens.
Mais il y a eu une enquête alors?
Oui, il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête, bon, mais elle a été infructueuse. À ma connaissance, hein. À ma connaissance. Maintenant, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Il y a eu une enquête, tout le monde a été. Tout son entourage, tous les endroits où il passait, etc. Comme dans les enquêtes classiques, c'est des enquêtes de routier.
D'accord. Et donc, vous, quand on vous a interrogé, on vous a demandé quoi?
La dernière fois qu'on vous était vu, etc. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il avait des problèmes? Est-ce que vous connaissez? Bon. J'ai dit, bien sûr, je connais. D'abord, c'est un collègue de travail. Deuxièmement, on habite dans la même cité. J'avais un copain, par exemple, qui était un peu avec. Bon, ils n'étaient pas en bise-bise, mais disant qu'ils s'accrochaient souvent. Alors, ils ont emmerdé avec le copain, particulièrement.
Alors, moi, Zahir Mokhtar, il m'a dit que vous avez été particulièrement interrogé parce qu'il y a un témoin qui vous a vu la veille de l'Aïd avec.
Alors, cette histoire, c'est comment? Ça, c'est un film affaire à part. Il nous avait dit qu'il avait eu un copain avec lequel il s'engueulait, là, le gars de Tlemcen. Bon. Un jour, je suis allé avec lui, parce qu'il était convoqué à la gendarmerie. Et au sortir, bah, après l'interrogatoire, après que ça sortait, moi j'attendais, l'officier est sorti, puis j'ai dit, bah, je lui dis, est-ce que je peux vous poser une question? Je lui dis, sur quoi vous êtes basé pour dire que... Il me dit, voilà, c'est un type brun, des cheveux lisses et des moustaches. Et moi, comme un con. Je lui dis, mais ça peut être moi, regardez, j'ai les cheveux lisses. J'avais des moustaches à l'époque, j'avais des cheveux plus lisses que ça, etc. Ah, il me dit, écoutez, de toute façon, on a une confrontation. On a un témoin qui, soi-disant, aurait vu votre copain. Il me dit, ça ne vous dérange pas de venir? Je lui dis, mais pas du tout, au contraire, je suis prêt. Ah, on y va. Et soi-disant, le témoin était à l'intérieur. Mais il ne fallait pas qu'on le voie, nous. Un autre officier arrive, me salue, me dit, bah, écoutez, en fait, c'est vous qu'on a vu, c'est pas... Ah bon, je lui dis... Au début, je pensais que c'était une blague, je rigolais. Mais après, quand j'ai vu que ce n'était plus une blague. Après, il vous dit, bon, tel jour, à telle heure, vous étiez où, par exemple? Et le fameux jour où il y a eu la grosse affaire, pour mon malheur, j'étais invité par quelqu'un qui recevait qui? Qui recevait des entrepreneurs espagnols, de par ma position d'officier. Le règlement m'interdisait d'être au contact d'étrangers. Deux, on était en plein dans l'affaire du Sahara occidental. Trois, j'étais sorti et puis j'avais passé la nuit dehors, en dehors de la caserne. J'étais, si vous voulez, en triple faute. J'ai fait ma déclaration. La personne qui m'avait invité, qui était un cousin, moi, quand les flics débarquent chez lui, le premier réflexe qu'il a, bon, il lui pose des questions, il dit, bon, est-ce que M. Dahan a passé la nuit chez vous? Non, jamais! Jamais! C'est très sérieux, il passe la nuit à la caserne. Donc, contradiction. Moi, je lui disais, passer la nuit chez lui, il lui disait. Oh. Alors là, ils ont commencé, ils se sont dit, bon, il y a quelque chose qui tourne pas. Mais ils ont beaucoup plus cru l'autre que moi. Alors après, je lui ai expliqué, oh, mais tu es dingue, mais pas... il me dit, oui, je sais que tu as passé la nuit chez moi. Mais je ne peux pas le dire puisque tu es en alerte, tu ne peux pas. Oh là là. Il a été obligé de retourner à voir la gendarmerie. Il leur a dit, écoutez, je me suis trompé dans ma déclaration parce qu'en fait, quand je suis rentré à la maison et j'en ai discuté avec ma femme effectivement s'est rappelée que ce soir-là, il a fallu auditionner sa femme. C'est une affaire d'État. D'ailleurs, cette personne, à l'occasion, nos relations se sont coupées à partir de ce jour-là, quand il a vu sa femme se faire interroger par des flics à cause de moi.
Mais c'était un cousin à vous et vous l'avez plus jamais revu.
Mais lui ne voulait pas que sa famille soit au courant de nos sorties. C'est conservatrice. C'est tout.
Et il est encore à Oran?
Je crois.
Il s'appelle comment?
Non, là, je ne peux pas vous donner ça, non. Non, parce que c'était... Vous allez en voir remis encore la merde de lui rappeler que sa femme s'est retrouvée dans sa commissariat. Il va m'en vouloir jusqu'à... Non. Mais lui, il peut pas dire à la limite, il va vous envoyer chier, parce que comme je le connais, il est brustre et rustre et tout. Non. Il peut pas. Voilà, grosso modo. Voilà.
Toute cette histoire, vous êtes épuisé. Vous voulez un peu d'eau?
Non, ça va, mais comme ça me remonte, comme ça, c'est des choses que j'ai digérées, très mal digérées pendant des années. Hein. Ça m'a gâché ma vie hein, pendant plusieurs années.
À ce point-là?
Ah oui. Un peu. Ça, c'est les femmes qui doivent m'appeler. Allô?
Dahan me raccompagne à la gare routière. Et tout en le remerciant poliment de m'avoir parlé, je rêve d'avoir un flingue dans la poche ou bien de faire 2 mètres de haut. N'importe quoi qui pourrait l'obliger à me dire la vérité. Mais encore une fois, je suis pas flic. Je n'ai aucun pouvoir de coercition. Je crois que j'ai atteint mes limites une fois de trop. Il faut que je change de méthode.
mes années, Boom, saison 1, épisode 6, Tout le monde ment, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Marie Placet. Merci à Lakal Bengoa, à Noureddine, à Jamel, à Atikazou, à Nabil, Mekdad, à Asdine Dahan, Sandrine Chaperon. Bien sûr, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, nul ne l'ignore.